Une autre vie s'invente ici.
Une autre vie s'invente ici.
L'équilibre énergétique en question.
Énergie renouvelable,
bâtiment,
transport,
sobriété énergétique,
économie circulaire.
On en parle dans cette émission coproduite par Radio Larzac, Radio Saint-Afrique et le Parc naturel régional des Grands Causses.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Saint-Afrique et Radio Larzac. Comment faire en sorte d'équilibrer l'énergie consommée et l'énergie produite sur le territoire? C'est l'objectif de cette série d'émissions réalisées par vos radios associatives locales. Il y a un mois, nous abordions les grandes lignes du projet du Parc naturel régional des Grands Causses en matière de transition énergétique, la convention avec l'État. Ce mois-ci, alors que les cheminées fument et que l'air se rafraîchit, un point complet et concret et surtout très pratique sur la question de la rénovation énergétique avec trois invités. Patricia Sicre, conseillère énergie à l'Agence départementale d'information sur le logement. Bonjour.
Bonjour.
Alexandre Chevillon, chargé de mission énergie et climat au Parc naturel régional des Grands Causses.
Bonjour.
Et Jean-Michel Baumevieille, gérant du syndic JMB Immobilier. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors pour commencer avec vous Alexandre, pourquoi faire une émission sur ce sujet?
Alors vous l'avez rappelé en introduction, le parc s'est engagé dans la transition énergétique avec un objectif d'atteindre l'équilibre énergétique du territoire d'ici 2030. Donc comment y arriver? Il y a trois axes principaux, c'est rénover énergétiquement les bâtiments, développer une mobilité durable et produire des énergies renouvelables en plus.
Voilà. Et donc on s'intéresse aujourd'hui au premier aspect, la rénovation en elle-même. Pourquoi le parc vient-il s'intéresser à la question du logement?
Le secteur des bâtiments est responsable de 40 à 45% de la consommation totale du territoire. Et dans ces 45%, on retrouve les logements des particuliers, les bâtiments publics et les bâtiments tertiaires.
Alors qu'est-ce qu'on a comme bâtiment dans le territoire? C'est du bâti ancien, souvent mal isolé. Qu'est-ce que c'est?
Sur le territoire du parc, aujourd'hui, il y a 75% des logements qui datent d'avant 1975. 1975, c'est la première réglementation thermique dans le bâtiment. Et du coup, on a des bâtiments souvent peu isolés. Voire pas du tout. En plus, on a un habitat qui est quand même assez dispersé, peu de logements collectifs, beaucoup de maisons individuelles. Et en plus de ça, en Aveyron, on a une rigueur climatique qui est un peu plus forte que la moyenne nationale, d'où des consommations par habitant qui sont au-delà des moyennes nationales.
Et qu'est-ce qui consomme l'énergie? Ce sont des particuliers, des entreprises, des collectivités? C'est où que se situent les dépenses?
Alors majoritairement, c'est les particuliers pour le chauffage des bâtiments, des habitations. Viennent ensuite les collectivités avec tout le patrimoine public et derrière, en marge aujourd'hui, le tertiaire et l'industrie.
Alors on parle du rôle du logement donc dans le changement climatique et dans les émissions par conséquent de gaz à effet de serre. Mais pourquoi rénover? Pourquoi ne pas tout détruire après tout raser et reconstruire à neuf avec des normes de qualité environnementale modernes?
Alors, ça serait un peu facile de dire ça, déjà, parce qu'on a un patrimoine aujourd'hui sur le territoire du parc qui est très intéressant du point de vue architectural, et du coup, on ne peut pas tout raser du jour au lendemain juste sur des prétextes de transition énergétique. Et puis, contrairement à ce qu'on croit, ce qu'on peut penser et ce qu'on entend dire souvent, la rénovation ne coûte pas plus cher que la construction. Aujourd'hui, les coûts de construction et surtout l'achat du foncier, et en plus avec les normes de réglementation thermique 2012 qui ont quand même augmenté les coûts de construction, aujourd'hui, il vaut mieux racheter un bâtiment, faire une bonne rénovation énergétique et ça revient souvent à moins cher que de construire.
Avant de rentrer dans des exemples, rénover, ça consiste en quoi? C'est refaire l'isolation, refaire les murs, l'étanchéité. Qu'est-ce que ça veut dire rénover?
Alors, quand on parle de rénovation énergétique, on va parler d'isolation, effectivement, du bâtiment. Et qui dit isolation, dit également ventilation. Aujourd'hui, à partir du moment où on va isoler le bâtiment, on va le rendre étanche. Sauf qu'à l'intérieur, on va dégager de l'humidité. Et il faut évacuer cette humidité, l'air vicié. Et du coup, on est obligé maintenant de coupler l'isolation avec la ventilation.
Une autre vie s'invente ici.
L'équilibre énergétique en question.
Dans cette émission, on va aborder plusieurs cas concrets, qu'il s'agisse de bâtiments publics, privés, du logement social, de collectivités, mais aussi de particuliers. Et pour nous aiguiller dans la forêt des dispositifs qui existent ou qui sont potentiellement utilisables par nos auditeurs et auditrices, nous avons le plaisir d'accueillir Patricia Sicre, donc conseillère énergie à l'ADIL, l'agence départementale d'information sur le logement. Alors qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert l'ADIL ?
Alors, l'ADIL, c'est une association qui existe depuis 1996, avec pour mission à l'origine de renseigner sur les aspects juridiques, sur le locatif, donc propriétaire, locataire, qui fait quoi, qui paie quoi, les obligations des uns des autres, les règles d'urbanisme, de la réglementation, de la fiscalité. Donc, voilà, une information neutre et indépendante. Donc ça, c'est le principal, le cœur de métier, on va dire, des juristes de l'ADIL. Et puis, c'est rajouté à partir de 2002, la mission de l'espace Infoénergie, où sur le même principe d'apporter une information neutre et indépendante, on est sur le volet technique. Quoi mettre comme isolant, comme système de chauffage, les avantages et inconvénients de chaque système. On n'est pas préconisateur, on ne donne que de l'info.
Et donc là, vous n'êtes plus en rôle de juriste, conseiller juridique, mais conseiller technique. Vous avez des spécialistes du bâtiment. Comment ça se passe ?
Donc, il y a deux conseillers énergie voilà, qui sont en mesure d'apporter un premier niveau d'information. Et après, on oriente vers bureau d'études, vers professionnels, en fonction des projets des uns et des autres. Aussi bien sur de la construction que sur de la rénovation.
D'accord, dans tout le domaine du bâtiment. Et alors, comment vous intervenez-vous sur cette question de la rénovation, justement ?
Alors, il faut savoir que depuis fin 2013, il y a eu le plan de rénovation énergétique de l'habitat qui a été lancé début 2013 au niveau national.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un programme de l'État avec pour objectif 500 000 logements rénovés d'ici 2017, avec toute une série de dispositifs financiers, de subventions et d'aides, justement pour inciter les particuliers à passer le cap et à passer le pas de faire ces travaux de rénovation. Donc l'ADIL Infoénergie de l'Aveyron a été identifié pour être, on va dire, ce guichet unique pour diffuser l'information. Alors après, il y a des systèmes de numéros national, site internet qui permettent d'orienter les différentes personnes vers notre service.
D'accord.
Pour qu'on puisse leur apporter toute l'information nécessaire jusqu'à l'accompagnement ou l'orientation vers les différents opérateurs pour le montage des dossiers.
Alors concrètement, je possède une vieille ferme dans le sud d'Aveyron, un peu sur un plateau. Elle a des murs bien épais, mais elle est assez mal isolée. J'appelle l'ADIL, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour moi ?
Donc on va pouvoir vous apporter, comme je vous disais tout à l'heure, l'info technique sur tout ce qui existe, ce à quoi il faut penser, les critères des équipements ou des matériaux d'isolation, donc vraiment un volet technique. Et puis ensuite, on pourra vérifier ensemble ce à quoi vous pouvez prétendre comme aide financière.
Et c'est à quoi qu'il faut penser ? Quand on commence à penser à cette question en tant que particulier de la rénovation, c'est quoi les éléments importants ?
Sur l'aspect technique, ça va être l'isolation. Parce que c'est le poste principal de déperdition dans un logement. Et dans l'esprit des particuliers, c'est encore trop les fenêtres. On est vraiment sur ce critère, en tout cas sur cette partie de travaux où quand on passe devant les fenêtres, on a cette sensation de paroi froide. Effectivement, quand on demande aux personnes qu'est-ce qu'ils veulent faire, la majorité du temps, c'est les fenêtres.
Bah oui, parce que l'air passe par les fenêtres, alors forcément, on change les fenêtres et on a une maison isolée. Sauf que c'est pas aussi simple.
C'est pas aussi simple. Alors voilà, chaque cas est spécifique. Et quand on demande qu'est-ce que vous avez comme isolation en toiture et qu'ils me répondent 10 cm d'isolant d'il y a 30 ans. D'accord. On peut tout reprendre, on peut tout enlever, mettre par-dessus, enfin en tout cas rajouter une bonne épaisseur. Donc voilà, c'est vraiment dans la discussion qu'on essaie de se rendre compte de l'état du logement. Mais classiquement, c'est l'isolation du toit, des murs, la ventilation, les fenêtres et après le système de chauffage.
Quand vous parlez d'isolant, justement, vous choisissez certains types d'isolants particuliers ou chaque cas adapté à une situation, comment vous... Vous faites la sélection parce qu'il y a la laine de verre, il y a des isolants écologiques, des méthodes avec de la paille, enfin il y a plein de techniques possibles.
Alors là aussi, nous on n'est pas prescripteur, donc on informe sur tout ce que l'on peut trouver sur le marché. Avec nous, ce qui est important pour nous, c'est le respect des critères techniques qui donnent une certaine performance et après libre aux particuliers de choisir le matériau qui va correspondre à son budget, à son envie, à sa philosophie en termes environnement. Mais c'est vrai que nous, on est là pour donner toutes les informations sur les différents matériaux ou les équipements qui existent.
Et une fois qu'on a cette information, donc, il faut aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire de cette information. Donc, c'est un investissement souvent assez lourd d'investir dans de la rénovation. C'est souvent justement reprendre l'entièreté de la toiture pour refaire toute l'isolation. Et donc, à ce moment-là, vous vous intervenez aussi pour du conseil, pour du financement. C'est bien la question qui nous occupe aussi aujourd'hui. Comment faire de la rénovation? Qu'est-ce qui existe?
Alors, il existe une forêt de dispositifs variés. Vous voulez qu'on les liste?
On peut commencer à les voir les uns après les autres. Donc, il y a une partie qui est plutôt des dispositifs financiers incitatifs, des crédits d'impôt, des subventions, des sortes d'éco-prêts. Et puis, il y a aussi après des aides avec la région, avec des chèques. Enfin, voilà. C'est un peu tous les types de financement imaginables, j'ai l'impression.
Pour commencer, qui fonctionne pour tout le monde, sans critère de ressources, on peut partir sur ce critère-là. Certains dispositifs sont conditionnés aux revenus des foyers, d'autres pas. Donc, par exemple, le crédit d'impôt fonctionne pour tout le monde, il suffit que ce soit la résidence principale. Et aujourd'hui, on est sur une déduction fiscale de 30%.
Donc, ça veut dire que sur le montant total des impôts, il y a 30%, le montant total
des travaux,
il y a 30% qu'on peut déduire les impôts.
C'est ça.
D'accord.
Si on est non imposable, on sera remboursé. Donc, imposable ou non, tout le monde en bénéficie.
D'accord.
Donc là, critère technique à respecter au niveau des équipements. Et il suffit de le déclarer l'année suivante sur la déclaration de revenus.
D'accord. Ça, c'est quelque chose qui existe, qui est pérenne
Alors non, justement, c'est bien le problème de ces aides financières. C'est qu'à aujourd'hui, on est sur la fin des dispositifs. Et donc, du coup, on a très peu de visibilité, juste à un an. Donc là, par exemple, le crédit d'impôt a été annoncé pour finir au 31 décembre. Il est question qu'il soit renouvelé pour 2016. Donc, comme chaque année, nous attendons avec impatience la loi de finances qui nous dira ce qui aura comme dispositif pour 2016.
Qui aura lieu donc fin décembre.
Fin décembre.
Autre dispositif, alors là, je ne sais pas s'il est plus pérenne, c'est les éco-prêts. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, c'est un prêt bancaire à 0% qui fonctionne jusqu'en 2017. Il y a obligation de faire soit une rénovation globale, soit de réaliser un bouquet de travaux, c'est-à-dire minimum deux actions, deux travaux différents. Et on peut emprunter de 20 000 à 30 000 euros jusqu'à sur 10 ou 15 ans. Et donc, c'est un prêt à taux zéro.
Autre dispositif, c'est ce que permet l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANA, c'est ça? Alors là, qu'est-ce que c'est que cette bestiole et à quoi ça sert?
Alors là, on a des financements très très intéressants, puisque c'est une subvention qui va jusqu'à 50% de 20 000 euros de travaux hors taxes, sous condition de ressources. Et là, on est sur les foyers les plus modestes, très modestes, sachant que quand même, en Aveyron, on a à peu près 70% de la population qui est dans cette catégorie très modeste.
Parce que voilà, le coût de la vie est aussi moins cher que dans certaines villes et du coup les conditions des ressources sont aussi plus modestes.
Plus modestes, plus avec un lien également avec l'augmentation du prix de l'énergie. Donc voilà, des factures énergétiques assez importantes. On l'a vu tout à l'heure avec Alexandre, des bâtiments qui sont anciens et donc énergivores. Donc tous ces facteurs cumulés font que voilà, on a une population qui est fragile et qui est pour la majorité donc en précarité énergétique. Et donc ces subventions donc de l'ANA permettent vraiment d'envisager des rénovations un petit peu plus conséquentes et qui au final pour le particulier ne vont pas leur coûter forcément plus cher.
Et c'est des aides qui tombent a posteriori ou justement, comme on est en condition de ressources faibles, généralement, on ne peut pas avancer les 20, 30 000 euros. Comment ça se passe?
Il y a un dispositif qui permet d'anticiper la subvention. En tout cas, la subvention sera proposée en à-compte une partie de la subvention. Donc effectivement, ça permet de le financement plus aisé des travaux. Donc je disais, c'est 50% de subvention de la part de l'ANA. Se rajoute le programme Habiter Mieux, qui lui est spécifique à la précarité énergétique. C'est un forfait de 2000 euros. Et pourra se rajouter également l'éco-chèque de la région Midi-Pyrénées, qui est à 1500 euros.
Qui pour l'instant est quelque chose de, là aussi, pérenne, ou est-ce que ça va dépendre de la nouvelle équipe ?
A priori, ça continue pour 2016.
D'accord. Dernier dispositif, peut-être le plus controversé, en tout cas, un peu plus compliqué à saisir, c'est ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Je voudrais que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est.
Alors, les certificats, ce sont des primes qui vont être données aux particuliers par les distributeurs d'énergie. Alors, les distributeurs d'énergie, depuis 2006, c'est le système pollueur-payeur. Ils polluent d'un côté en vendant de l'énergie, il faut qu'ils compensent en générant des économies d'énergie. Donc, admettons, ils ont un quota chaque année à faire d'économies d'énergie. Ils font des travaux sur leur bureau, leur patrimoine, leurs usines ou que sais-je. Ils les font une fois, ils ne vont pas y revenir chaque année. Donc, pour générer, pour atteindre le quota annuel que leur fixe l'État, ils vont récupérer par l'intermédiaire de nos factures de travaux les économies d'énergie générées par nos travaux, nous en tant que particuliers. Et donc, en fait, on sait, il y a des fiches standardisées qui ont été faites au national et qui disent tel type de fenêtre, telle performance génère X kilowattheures d'économie d'énergie.
Indépendamment de la situation, du lieu, etc. C'est des normes standards.
C'est des normes, voilà, c'est quand même modulé en fonction des zones climatiques, mais on a ce parallèle entre les actions que l'on fait, les travaux que l'on fait et les économies d'énergie que cela génère. Et du coup, ça permet de rémunérer finalement les travaux que l'on va faire. Donc chaque fournisseur d'énergie, quand un particulier choisit un fournisseur d'énergie, il peut en contrepartie donc lui donner une prime en échange de la facture.
D'accord. Et cette prime, est-ce qu'elle a un montant fixe ? C'est très aléatoire ou c'est... Parce qu'en gros, c'est un bénéfice clair pour l'entreprise qui n'a pas à faire d'autres travaux de compensation de ces pollutions. Mm-hmm. Et pour le particulier, c'est juste une prime, en fait ? Comment ça se passe ?
Oui, ça permet de récupérer quelques euros de plus. Donc, il y a un cours, on va dire, du certificat d'économie d'énergie qui a pas mal chuté là cet été, puisque les obligés, donc les distributeurs d'énergie avaient atteint pas mal leurs objectifs, donc ce cours a baissé. Mais effectivement, on a en fonction des travaux une rémunération en face qui est à peu près similaire d'un prestataire à un autre.
Merci beaucoup, Patricia Sicre.
On aime bien la campagne, quatre pattes de la paille.
Comme pour la montagne, on se fait grimper la faille.
La banlieue, c'est pas mieux, on se fait tous les levards.
À la mer, c'est bien mieux, c'est tout debout,
tout debout, tout debout sous les phares.
L'habitat qu'on préfère, c'est l'habitat urbain, avec son train d'enfer.
Chou-chou, chou-chou,
ce qui nous fait du bien.
On a plein la bouche.
Les paysans nous invitent. On joue les simples nidouches.
Avant de vous faire la paire, tâtez-la dès demain.
Vous saurez quelle affaire.
C'est la bite,
la bite,
l'habitat urbain.
L'habitat qu'on préfère, c'est l'habitat urbain, avec son train d'enfer.
Chou-chou, chou-chou,
ce qui nous fait le bien.
Ce qui nous fait du bien, c'est l'habitat urbain.
Ce qui nous fait du bien.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission spéciale Une autre vie s'invente ici, l'équilibre énergétique en question avec le parc naturel régional des Grands Causses. On vient de détailler l'ensemble des dispositifs existants pour les particuliers pour être aidés justement en cas de rénovation de leur bâti. Ces aides ne sont pas l'une ou l'autre, on peut les cumuler et elles peuvent se compléter pour aider globalement les individus.
Ces aides sont cumulables sous certaines conditions quand même, mais sur l'ensemble, en tant que particulier, on ne peut pas avoir plus de 80% d'aide publique. Donc ça veut dire qu'il y a forcément 20% à charge, et donc c'est là où il faut vraiment faire son plan de financement en fonction des travaux, des montants, les subventions ou les aides qui vont en face, et voir comment on peut combiner tous ces dispositifs entre subventions, déductions fiscales et les couperets à taux zéro qui peut permettre de financer le reste à charge.
Quand même, depuis quelques années, ces aides sont en augmentation. On a eu en 2013, je crois, de mémoire, une augmentation des aides de l'ANA conséquente. Mmh. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Aveyron, un foyer sur deux est éligible aux aides de l'ANA. Mmh. Et pareil, le crédit d'impôt, quand il y a deux ans, c'était 12% sur les poêles à bois, 15% sur l'isolation de toiture. Aujourd'hui, c'est un taux unique à 30% pour tous les travaux d'isolation, de renouvellement de chaudière, de régulation, de ventilation.
Et est-ce que aujourd'hui, ces dispositifs, ça permet en fait que presque qu'on n'ait pas à débourser un sou tout de suite pour ces travaux, mais que ça s'échelonne, c'est remboursé par des crédits, etc. Est-ce qu'on peut faire des opérations presque blanches ?
Oui, complètement. Aujourd'hui, quand vous avez, 2000 euros de facture d'énergie, des travaux qui permettent de générer 50% d'économie, derrière votre facture n'avait plus que de 1000 euros. Donc on l'a vu, il reste toujours une partie à charge, il faut débourser l'argent pour les travaux. Cette partie, si on a recours à un emprunt bancaire, on s'aperçoit bien souvent que on aura peut-être 600 euros à rembourser par an. Donc ce qui fait qu'on passe d'une facture de 2000 euros d'énergie à demain une facture de 1000 euros plus 600 euros par exemple de remboursement bancaire.
D'accord.
Et l'intérêt de ça, c'est qu'aujourd'hui, quand l'énergie prend 5 à 10% par an suivant les énergies, quand vous souscrivez un prêt bancaire, vous êtes généralement à un taux fixe et du coup, vous êtes dépendant plus que pour moitié en fait de votre facture énergétique.
Mais est-ce que ça ne pose pas un problème que justement là, il y ait autant d'aides, on va dire? Est-ce que ce n'est pas une subvention déguisée aussi au secteur du bâtiment pour amener ces rénovations? Est-ce que ce n'est pas un problème? Patricia Sicre.
Alors, un problème non, puisque c'était notamment une des volontés du plan de rénovation énergétique de l'habitat, de faciliter le passage à l'acte avec ces financements pour que les particuliers fassent des travaux, réduisent leur facture énergétique et en même temps soutenir l'activité locale du milieu de la construction.
D'accord. Sachant qu'on appelle aussi... Est-ce qu'il y a des clauses pour appeler des entrepreneurs locaux ou pour le coup, il n'y a pas de... On n'est pas lié à appeler le maçon du coin.
Disons que quand on est particulier, on a libre choix de travailler avec qui on veut. Contrairement aux collectivités, aux règles de marché public, le particulier travaille avec qui il veut, sachant qu'aujourd'hui, quand même, il y a des critères des qualifications aux artisans du bâtiment et certains dispositifs financiers comme le crédit d'impôt, où les certificats d'économie d'énergie sont conditionnés à avoir un artisan reconnu garant de l'environnement, RGE.
RGE, d'accord. Alors justement, vous parliez, Action de Chevillon, des bâtiments publics, des marchés publics. Il n'y a pas que les particuliers qui ont besoin de rénover leurs locaux. Les collectivités locales et territoriales ont besoin aussi de faire un gros travail. Et c'est un travail que le parc naturel régional des Grands Causses mène déjà.
Voilà, tout à fait. Faut savoir déjà dans les collectivités, le budget énergie dans les dépenses de fonctionnement, c'est de l'ordre de 4 à 6%. 6%, c'est pour les plus petites communes, donc c'est quelque chose qui pèse quand même dans le budget de fonctionnement des collectivités, qui est en augmentation croissante. On est de l'ordre dans les collectivités, là, pour le coup, on a les chiffres, on est à une augmentation de 9-10% par an.
Ah oui, donc c'est conséquent.
C'est conséquent.
Et ça tient à quoi ? L'équipement informatique, l'augmentation du matériel ?
Non, on parle bien du coût unitaire de l'énergie, donc même pas ramené aux consommations en fait, c'est vraiment le coût unitaire de l'énergie, parce que quand on entend régulièrement le gaz va prendre 2%, l'électricité 1,5%, on parle bien souvent que du tarif du kilowattheure, et on ne prend jamais en compte l'abonnement, les taxes, la CSPE et compagnie.
D'accord.
Donc quand on regarde la facture globale, on note une augmentation de 9-10%, et que ce soit du gaz de ville, de l'électricité ou du fioul.
Alors, j'imagine bien qu'en période de restrictions budgétaires et on cherche à faire des économies un peu partout, on en fait aussi dans ce domaine-là.
Voilà, donc c'est face à ce constat qu'en 2012, le parc a initié une vaste opération, une vaste campagne d'études thermiques sur l'ensemble sur la majorité du patrimoine public des collectivités. Donc on a proposé à toutes les communes qui le souhaitaient de réaliser des études thermiques pour voir les points forts, les points faibles des bâtiments, mais surtout pour déterminer des programmes de travaux d'amélioration thermique, pour les chiffrer en investissement et voir les économies que ça pouvait générer.
Et ça, ces études, qu'est-ce qu'elles ont engendré ?
Alors, ces études, déjà, elles ont concerné 100 bâtiments sur l'ensemble du territoire, 100 bâtiments publics, donc, dont une dizaine de santé. Les centres hospitaliers de Millau et Sainte-Afrique, par exemple. C'est 120 000 m² de surface de plancher. Et pour ces 100 bâtiments, c'est 2 millions d'euros dépenses énergétiques annuelles. Voilà. Donc aujourd'hui, où on en est 3 ans après, il y a d'ores et déjà des communes qui se sont engagées dans des réhabilitations de bâtiments. Et sur l'ensemble de ces 100 bâtiments diagnostiqués, on est aujourd'hui à 15% d'économies réalisées.
Ce qui est substantiel du coup. Par rapport aux 10% qui augmentent annuellement, ça compense déjà au moins les augmentations.
Voilà, ça ne fait pas forcément faire des économies à la collectivité, mais en tous cas, ça évite d'avoir des dépenses croissantes.
Et comment les collectivités s'organisent pour faire financer tout ça ? Parce que j'imagine bien qu'elles n'ont pas forcément toujours les moyens.
Alors là encore, comme pour les particuliers, il y a un contexte qui est très favorable aujourd'hui pour les collectivités pour rénover leur patrimoine. Donc on a des aides de la région qui n'existaient pas il y a 3 ans, qui étaient à 25% du montant total des travaux il y a un an encore, qui ont été rehaussées à 35%. Donc bien souvent aussi les communes arrivent à avoir de l'argent de l'État, donc on arrive à 50-60% d'aide. Les certificats d'économie d'énergie, on en parlait tout à l'heure, sont aussi éligibles pour les collectivités et cumulables à ces dispositifs. Et ensuite, de la même manière que pour les particuliers, il y a des éco-prêts à taux zéro. Là, pour les collectivités, on a des prêts de la Caisse des dépôts et des consignations, des prêts à taux très réduits. Aujourd'hui, on peut emprunter sur 40 ans à 1,5%.
Une autre vie s'invente ici. L'équilibre énergétique en question.
Merci Alexandre. Alors il n'y a pas que les collectivités ou les particuliers qui sont concernés par la rénovation. Certains n'ont pas même attendu tous ces dispositifs pour se mettre à la page. Jean-Michel Baumevieille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant du syndic JMB Immobilier et en 2014, je crois, vous avez lancé une opération un peu pilote sur une copropriété à Millau en rénovation. Expliquez-nous ce qui s'est passé.
Alors cette copropriété qui s'appelle le Mirador, qui est à Millau donc, pour cet immeuble se posait plusieurs problèmes, c'est-à-dire qu'elle était confrontée à des problèmes d'entretien, notamment elle avait à faire face à des travaux relativement importants, à savoir rénovation des façades, ravalement, rénovation de chaufferie, puisque nous avions une chaufferie fioul complètement obsolète, qui avait une trentaine d'années, des problèmes de ventilation, Alexandre en a parlé tout à l'heure. Et donc la question qui se posait donc aux copropriétaires, c'était de savoir s'ils allaient faire par étapes ou une opération globale. Les copropriétaires avaient intérêt à faire une opération globale. Pourquoi ? Parce que si nous réalisions opération par opération, d'abord nous ne pouvions pas mobiliser les aides publiques dont Madame Sicra parlait tout à l'heure. Et donc il était plus judicieux, plus pertinent de pouvoir le faire globalement. Ça nous permettait donc de mobiliser les aides, de pouvoir faire aussi un financement collectif. Alors l'éco-prêt à taux zéro a été évoqué pour les particuliers, pour les collectivités. Il existe aussi pour les copropriétés, mais nous avons une difficulté qui est purement technique bancaire. C'est-à-dire que nous avons du mal à trouver des établissements bancaires qui veuillent réaliser ces éco-prêts. Alors, pour cet immeuble-là, donc, nous avons réalisé plusieurs types de travaux. Réfection des façades avec isolation par l'extérieur, isolation des combles, réfection complète de la chaufferie avec changement de source d'énergie. Nous avions une vieille chaudière fioul avec un stockage de fioul aussi. Les stockages de fioul, ça nous pose des problèmes, oui. Notamment en termes de pollution ou autre. Donc on a changé d'énergie, on a sorti la cuve, etc.
Et vous êtes passé à quoi ?
On est passé au gaz.
D'accord.
Voilà. Donc on a optimisé cette chaufferie en isolant tout le bâtiment, bien sûr. Donc les équipements ont été mieux calibrés, beaucoup moins puissants. Et donc on a veillé donc à séparer la production d'énergie pour le chauffage de la production d'eau chaude sanitaire. C'est des problèmes techniques, mais ça permet encore d'optimiser, et le gaz permettant un chaudière à condensation d'avoir des retours en économie qui sont plus importants.
Pour vous lancer dans cette opération, c'était purement un intérêt d'opportunités avec, comme vous dites, les aides qui avaient lieu parce que c'était des travaux globaux.
Alors, il faut savoir que les copropriétés ont l'obligation de réaliser un audit énergétique complet pour les immeubles qui font plus de 50 lots au plus tard à fin de l'année 2016.
D'accord.
Donc, sur ce bâtiment, on avait un peu moins de 50 lots, mais on a préféré faire cet audit en l'anticipant, de manière à pouvoir confier à une mission d'assistance à maître d'ouvrage un bureau d'études qui a réalisé l'intégralité de l'appel d'offres, etc., pour les travaux, et qui a suivi les travaux. Et de manière à ce qu'on puisse voir le gain énergétique qu'on pouvait arriver à faire en faisant l'ensemble de ces travaux. Alors, pour faire simple, le gain énergétique est de la moitié de la consommation que nous avions auparavant.
Ah oui, donc ça c'est vraiment
50%.
Important.
Donc, il faut savoir qu'en copropriété, on a une multitude de personnalités, des retraités, des actifs, etc. Et donc, tout le monde n'a pas la même perception de l'entretien des bâtiments, d'une part, et de leur amélioration, d'autre part. Donc, nous, professionnels, on leur doit conseil, bien sûr, et notre tâche a consisté à présenter les choses de façon plus comptable, peut-être, en matière d'amortissement, et de leur faire toucher du doigt que, avec l'économie d'énergie, ils allaient pouvoir rembourser, notamment pour ceux qui ont fait du crédit, rembourser avec l'économie une grande partie du crédit.
D'accord, c'est-à-dire que les gens ont pu amortir rien qu'avec les économies d'énergie sur plusieurs années.
Deux tiers du crédit facilement. Alors que s'ils avaient réalisé des opérations individuelles, d'abord on aurait eu des difficultés à faire un crédit. Pour chaque opération, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et puis, ils n'auraient pas pu bénéficier du gain énergétique qui leur aurait permis de rembourser. Quoi.
D'accord.
Donc, voilà. Donc, on a préféré faire comme ça. Nous, notre rôle a été de conseiller. Alors, ça a été long. Hein.
Qu'est-ce qui a été difficile ? Qu'est-ce qui a été problématique ?
Déjà, il y a un premier écueil. Peut-être Alexandre en parlera. C'est nos copropriétaires. Ils ont parfois réticence à mettre de l'argent dans des prestations intellectuelles d'un ingénieur qui va leur dire « Vous consommez trop. Si vous faites tel type de travaux, vous ferez tel type d'économie. » Voilà.
D'accord.
Donc ça, c'est la première barrière. Bon, ça nous a permis de mettre en évidence les performances de ce bâtiment et aussi ses défauts en termes énergétiques. On a eu un chiffrage qui nous a permis d'anticiper le coût des travaux. On a essayé, ça c'est très difficile, de voir quelles aides on pouvait mobiliser.
Ça, c'est vous le syndic qui avait joué tout ce rôle-là ? Comment
oui.
Ça s'est passé ?
Oui, jusque-là, oui. Après, dans la phase d'exécution, il y a d'autres intervenants qui sont venus. Et puis donc on a proposé donc à cette copropriété d'engager un plan de rénovation énergétique. C'est prévu par le code de la construction et de l'habitation. Et notamment ces dispositions permettent de voter des travaux qui sont normalement des travaux qui se votent à la double majorité de l'article 26, c'est-à-dire des travaux d'amélioration. Maintenant on peut les voter à des conditions de majorité plus faibles. Mmh. Et notamment aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, peut-être des fenêtres. Ça permet d'imposer aux copropriétaires qui n'ont pas remplacé leur menuiserie de le faire. Alors que juridiquement, sous des travaux normaux, on ne peut pas le faire. Hein.
Mais voilà. Du coup, là, quelque part, ça force la main à ceux qui sont le plus réticents.
Un petit peu. Voilà. En copropriété, c'est quand même la règle de la majorité qui s'applique.
Voilà. Et tout le monde est obligé de l'appliquer à partir du moment où c'est décidé.
Là, dans ce cas-là, il n'en restait plus qu'un qui n'avait pas fait ce remplacement.
D'accord.
Mais on aurait pu concevoir aussi de remplacer l'intégralité des menuiseries en faisant les autres travaux.
Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans en tant que syndic? Parce que ce n'est pas tous les syndics qui mènent des opérations pareilles.
Alors, on n'est pas tous intéressés au sujet de la même manière, mais on doit conseiller à nos clients. Le deuxième point, il faut savoir que si on veut avoir des immeubles qui sont performants, il faudra engager des plans de rénovation de ce type. Voilà. Ce bâtiment, donc, il n'était pas si énergivore que ça, mais enfin bon, c'était quand même une consommation relativement importante. Donc il fallait, notamment pour les propriétaires bailleurs, on avait un ajustement entre le loyer et les charges qui se faisait sur le loyer. Donc en faisant ce type de travaux, les bailleurs aussi s'y retrouvent, notamment parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont pu bénéficier des aides de l'ANA en conventionnant les logements. Et donc ça leur a permis d'être aidés dans les travaux.
D'accord. Donc pour les locataires, en fait, ça n'a pas fait tant de changements. C'est juste qu'ils ont payé moins de loyer et un peu plus de charges.
Les locataires, eux, immédiatement, ils retrouvent une baisse des charges conséquente.
D'accord.
La moitié du poste énergie.
Ce qui peut être conséquent dans une copropriété.
Donc tout le monde a y gagné, finalement. Les occupants, parce qu'ils ont une facture énergétique moins importante. Les bailleurs, parce qu'ils vont retrouver un niveau de loyer un peu plus équilibré par rapport à ce qu'ils avaient avant. L'immeuble, en fait, il retrouve une certaine pérennité. On maintient ou on augmente sa valeur patrimoniale. Ça, c'est quand même non négligeable.
Le frein aujourd'hui dans des copropriétés, c'est payer pour voir, entre guillemets. Donc, c'est payer une prestation à un bureau d'études pour faire une étude thermique. 4000 euros de mémoire, là, cette prestation-là. Du coup, nous, on a eu l'idée au niveau du parc de lancer un marché global, une commande groupée à destination des syndics de copropriété, mais à destination aussi des logements sociaux. De ce fait, on va pouvoir commander une cinquantaine d'études d'un coup. Donc, on va passer de 4000 euros à 2000 euros, en fait, le prix unitaire de l'étude. Et là-dessus, grâce à la labellisation et à l'enveloppe de l'État liée au territoire à énergie positive, on va pouvoir apporter des subventions conséquentes de l'ordre de 60 à 80%. Et ce qui va permettre de baisser vraiment ce coût de prestation pour les copropriétés et les logements sociaux.
C'est-à-dire que grâce à la convention avec l'État, donc Territoire Énergie Positive pour la Croissance Verte, qui a été signée il y a quelques semaines, avec l'État, vous avez des enveloppes de financement donc pour la transition énergétique, et donc elles vont être affectées en plus des dispositifs existants cette rénovation pour des copropriétés et des logements sociaux.
Voilà, donc cette enveloppe ne viendra pas financer l'investissement parce qu'aujourd'hui, on l'a vu à l'instant, avec Patricia, il y a déjà énormément d'aides pour les propriétaires ou pour les bailleurs privés ou sociaux. Mais cette aide, elle va venir payer les missions d'ingénierie au préalable. Et plutôt qu'une copropriété soit contrainte de payer 3 000 à 4 000 euros une étude thermique pour choisir les bons travaux, voir si c'est rentable de le faire, elle en paiera peut-être que 600 ou 800 euros.
Et est-ce que, je repose la question que je posais tout à l'heure pour les particuliers, mais est-ce qu'on n'aide pas trop? Parce que est-ce qu'on n'est pas en train, par ce système-là, à force d'aider les particuliers, les copropriétés, de créer une sorte de bulle, en fait, où tout le monde s'en couvre, tout le monde va se lancer dedans? Est-ce que vous en pensez les uns les autres?
Je dirais...
Alexandre Chevillon.
Enfin, moi, je ne vois pas ça comme ça. Aujourd'hui, on a une facture énergétique, par exemple, sur le territoire, qui est de l'ordre de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros à 10% par an, chaque année, on prend 20 millions d'euros de plus. Il y a une nécessité aussi donc d'économiser par rapport à l'épuisement des ressources, de rendre moins dépendant ce territoire vis-à-vis de l'extérieur et des pays étrangers producteurs de pétrole. Donc aujourd'hui, c'est quand même normal qu'il y ait des incitations fiscales. En plus, il y a aussi une baisse d'activité dans le secteur économique et dans le secteur du bâtiment. Donc c'est un moyen aussi de soutenir cette activité-là. Et puis après, on a des dispositifs... régionaux et européens, par exemple sur les bâtiments publics, où là, clairement, on est malheureusement dans une concurrence entre territoires. Il y a des enveloppes qui sont votées au niveau de l'Europe. Si un territoire rénove 10 bâtiments et le territoire voisin en rénove 50, le territoire d'à côté sera aidé 5 fois plus. Donc c'est au territoire aussi de se mobiliser. Aujourd'hui, sur ce territoire, on a la chance d'avoir une mobilisation des collectivités, des particuliers, et également demain des bailleurs sociaux et des syndics de copropriété. Donc il faut en profiter. Et nous, notre objectif en tant que parc, c'est de faire un territoire entre guillemets exemplaire à ce point de vue-là. Donc forcément, on incite, on pousse, mais derrière, il n'y a que des avantages économiques, environnementaux pour ce territoire.
Patricia C., qu'est-ce que vous pensez de cette question ? Est-ce qu'on n'incite pas trop quelque part ?
Je ne pense pas. Je rejoins ce que vient de dire Alexandre avec un point qui nous paraît important à la DIL, c'est la notion de précarité énergétique. On n'en a pas trop parlé.
Non.
Où effectivement, on considère qu'un foyer est en précarité énergétique dès qu'il consacre au moins 10% de son budget à se chauffer. Et on ne parle pas du transport, de l'énergie utilisée pour le transport. Donc, les aides financières, certes, il y en a beaucoup. Elles sont ciblées sur les personnes qui en ont besoin, avec la problématique de déceler ces personnes. C'est souvent dans nos territoires ruraux la difficulté, la principale difficulté.
Qu'elles sont seules, vous voulez ?
Mais ce qui a été constaté, c'est que c'est souvent des personnes âgées, des personnes seules, qui sont dans des territoires, des communes rurales, donc isolées.
Des hameaux, des maisons isolées.
Voilà, tout à fait. Le sud d'Aveyron est malheureusement touché par cette précarité et avec la difficulté d'atteindre ces personnes qui sont éligibles, qui pourraient rénover de façon convenable leur logement et on n'arrive pas à les toucher. Donc ça, c'est une première problématique. Et puis ensuite, donc, c'était d'arriver à rénover notre patrimoine. On l'a dit au début, on ne va pas tout raser, pour atteindre donc des performances intéressantes, parce que quand le prix de l'énergie va augmenter, ça on le sait tous.
C'est une forte éventualité.
Et que quand on va recevoir ces futures factures, et quand on voit dans le cas qu'a cité M. Bommevieille, où on a une réduction de la moitié de la facture, c'est quand même énorme. Donc ces aides sont là, sont vraiment incitatives. Il faut arriver à faire le pas pour les particuliers occupants, pour les bailleurs, en dehors du contexte économique, environnemental.
Monsieur Bonvieille, peut-être ?
Oui, alors je suis tout à fait de votre avis. Je pense qu'elles sont incitatives d'une part et que nous avons un schéma de population dans le sud d'Aveyron qui est pas, qui sont pas, enfin, on a affaire à des propriétaires de modestes financièrement. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et puis il faut le rappeler aussi, c'est que ça permet aussi de donner pas mal de travail à nos entreprises. Donc,
notamment le secteur du bâtiment.
Dans le secteur du bâtiment, qui en a bien besoin.
Peut-être pour ajouter aussi, on est dans un contexte, on l'a vu, qui est quand même assez favorable, mais ça ne va pas durer. À chaque fois, c'est pour lancer des filières. Demain, de toute façon, quand le pétrole sera à 2 euros le litre, parce qu'on y viendra très vite, il n'y aura plus besoin d'aide incitative parce que ça sera tout simplement très rentable de le faire. On l'a vu, si on peut faire le parallèle avec le photovoltaïque. Au début, le photovoltaïque était très fortement aidé pour lancer la filière. Les prix des panneaux étaient encore très très chers. Aujourd'hui, entre 2009 et 2015, le prix des installations a dû être divisé par 4. Voilà. Et le prix d'achat, de revente sur le réseau, pareil, a été divisé par 4. Donc on est dans des aides à l'incitation pour développer des filières. Mais de toute façon, un jour, il n'y aura plus besoin de ces aides.
Et une question qu'on s'est posée, on parle de rénovation énergétique, donc pour la transition énergétique et écologique. Mais est-ce que ce qu'on utilise pour la rénovation est en soi écologique ? C'est-à-dire, est-ce que les matériaux, leur provenance, est-ce que ça, c'est aussi étudié par tous ces dispositifs, ces systèmes ?
Aujourd'hui, non, il n'y a pas de critères sur le choix des matériaux, si ce n'est des critères techniques sur, par exemple, l'épaisseur d'isolant. On a un coefficient à respecter qui va correspondre à une épaisseur d'isolant.
Parce qu'on se souvient à l'époque, l'amiante qui était un matériau très utilisé, mais qui est écologiquement et même sanitairement un gros problème aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là, Patricia Sicre ?
À aujourd'hui, voilà, aucune obligation malheureusement sur l'emploi des matériaux biosourcés ou d'origine naturelle ou végétale.
Je pense que ce sera des nouveaux critères à venir pour la suite, parce que l'État et les régions ou même l'Europe ne pourront continuer à subventionner autant tous ces travaux. Donc il y aura peut-être des conditions de ce type à venir. Oui.
Y'a pas de bon, je te parle nos maisons et nos coups bonbons. Pas d'autre option, travailler dur, se saigner à fond et s'entourer de quatre murs. Fini les crocs, fini les coups, car dire des mots, c'est sous du loup. Le temps fait défaut, l'argent le faux, bon. J'emprunte pour quatre générations.
Bonjour monsieur cochon, on le fait pour vous aider. Il vous faut de la monnaie, je peux vous en procurer 10% d'intérêt, je sais c'est élevé. Mais qui d'autre que Wallbang traiterait un cochonnet?
Hey, le v'là endetté, j'ai trouvé la parade, je le tiens par le porte-monnaie.
L'heure de ma vengeance va bientôt sonner.
Yo, chalet, roots on go. Caravane, van, mobilo. Yeah, la méta, c'est notre droit. Léger, c'est notre choix chez nous. Le loup fait pas sa loi. Autonomie, hey, autoconstruit, hey, écologie, hey, respect du choix de vie.
Fini la marcherie, écologie, à toi qui
les signes de main, on se casse, on laisse en bataille.
Casse mon pas, t'en peur là, même au sens, est-ce que j'ai le choix? Je vais passer voir les frérots et leur en toucher deux mots.
Salut. Et la misère. Et le loup galère. La vie d'un qui me tue, la femme qui me plaît. À toi quel qu'il soit, bienvenue chez toi mon frère.
Je suis sceptique, c'est pas de la vie.
C'est la terre du bois de la paille, 100% local.
Bref, rien de bon, en terre d'isolation.
Feu de chamboulaine, ma maison est saine.
Chaque hiver, retour à la glacière.
N'importe quoi, j'ai un bon poil à
moi. Ma tweet et moi, mais où est-ce qu'on fait caca?
Tu connais pas ton essai, je crois.
Chalet, vous êtes son niveau. Caravane, cabane, van, mobilo.
La vita, c'est notre droit.
Léger, c'est notre choix chez nous.
Le loup fait pas sa loi.
Autonomie, hey, autoconstruit, hey, écologie.
Ah, enfoiré de cochon, ils ont trouvé la solution. Vite, une autre astuce. Messieurs les cochons, que faites-vous là? Vous avez un permis? Dites-moi de quel droit vous avez construit ça? La loi ne dit rien sur votre cas, alors dégagez-moi de là.
Le loup, encore une fois toi, laisse béton le tomber. Là, ton système grégaire nous rend bien amers. Laisse donc faire les rois du camping vert. On est des milliers, c'est pas prêt de s'arrêter. Moi et mes porcelets, on veut pas être assisté. Un brin de liberté, c'est tout ce qu'on a demandé. Allez, on est pas des vaches, allez.
On est des cochons, on est des cochons. On est des cochons, on a construit nos maisons.
Derrière le costume, méfie-toi, y'a un loup. Avec nos habits à plumes, on en vient dans ta boue.
On est des cochons, on est des cochons. On est des cochons, on a construit nos maisons.
Derrière le costume, méfie-toi, y'a un loup. Avec nos habits à plumes, on en vient dans ta boue.
Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous.
Peut-être avant de se quitter, de finir cette émission, je voulais vous interroger aussi sur tout ce qui se fait d'autre qu'en matière incitative, fiscale, d'audit sur la rénovation énergétique. Je crois que le parc met en place des actions dès à présent de sensibilisation du public. Cette émission en est une. Vous en mettez en place d'autres. Je pense par exemple à ce qu'on appelle les nuits de la thermographie. Rappelez peut-être quelles sont les actions que vous mettez en place.
Alors, les nuits de la thermographie, c'est une opération qui a eu lieu entre 2012 et 2015, qui n'aura pas lieu cet hiver, mais on recommencera dès l'hiver prochain. En fait, ça rejoint tout ce qu'on a dit ici. Les nuits de la thermographie, c'est quoi ? C'est des opérations dans des petits villages ruraux. En général, première année, on était des villages inférieurs à 1000 habitants. On est tombé après au moins de 500 habitants. Et l'idée, c'est de sensibiliser les habitants à la rénovation énergétique des bâtiments en passant par la thermographie. Donc concrètement, on vient avec une caméra thermique, des professionnels de la caméra thermique infrarouge. Et cet outil permet de déceler les défauts d'isolation des bâtiments par un code couleur. Plus c'est rouge, plus c'est chaud, plus la chaleur s'échappe par ici. C'est un outil de sensibilisation, mais le fait de le faire en plein hiver, des mardis soirs, parfois sous la neige, dans des villages très reculés, les gens ne viennent pas parce qu'ils sont intéressés par le sujet, mais parce qu'ils sont curieux, en fait, parce qu'il se passe quelque chose un soir à Issen en plein hiver. Donc ça permet d'accrocher, justement, Patricia parlait tout à l'heure de notre difficulté à déceler ces cas-là, ben ça permet de pouvoir toucher ces gens-là qui viennent plus par curiosité et en fait, ben on profite de ces soirées pour parler des aides financières, pour leur montrer qu'il y a un enjeu, qu'on est là pour les accompagner. Et je rappelle ce qu'elle a dit Patricia en introduction, il y a un intérêt aujourd'hui à passer par des tiers pour choisir les bons travaux. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont reconnues pour ça, comme l'ADIL, l'Espace Info Énergie. C'est des personnes qui vont vous apporter des conseils neutres, indépendants. Parce que forcément, si vous posez la question de votre problème de chauffage à votre plombier, il va vous dire que c'est la chaudière qui ne va pas. Il va vous mettre une pompe à chaleur. Mais par contre, si vous en parlez au menuisier, lui, il va vous dire que c'est les fenêtres. Bon. Donc c'est l'intérêt justement d'avoir une vision globale sur le bâti qu'ont pas toujours les artisans. Et c'est pareil pour les bâtiments publics ou les copropriétés, l'intérêt de passer par des phases d'études d'ingénierie pour choisir vraiment les bons travaux. Parce que voilà, des exemples où des bâtiments ont été isolés sans mettre en place une ventilation, on en a tous les jours, quoi. Et derrière, c'est des répercussions qui sont quand même graves pour le bâti. Donc il faut, entre guillemets, pas se planter dans le choix des travaux.
Une autre action également mise en place sur le territoire du parc, cette fois on en a déjà pas mal parlé, y compris sur notre antenne, mais rappelez qu'elle existe toujours, c'est les défis famille énergie positive. Qu'est-ce que c'est, Patricia Sick?
Alors c'est un jeu. C'est un jeu qu'a lancé le parc il y a 4 ans déjà. Donc l'idée c'est de participer en équipe. Alors équipe de famille, de voisins, de collègues, qui vous voulez. L'objectif est de réduire ses consommations de 8% avec uniquement des gestes simples à faire. Absolument pas d'investissement, pas question de changer la chaudière ou d'isoler le comble. C'est vraiment les gestes du quotidien. Donc on met à disposition une série d'outils auprès de ces familles. Donc il y a le guide des 100 éco-gestes où on va avoir la rubrique chauffage, électroménager, le froid, la cuisson, le lavage, enfin voilà, tous les postes consommateurs dans un logement. Et voilà, on a la formation des capitaines, donc il faut désigner un capitaine motivé. Et ensuite, les familles doivent, il y a un peu de travail, les familles doivent répertorier les consommations d'énergie de leur logement l'année précédente. Et ensuite, sur l'hiver à venir, donc nous allons attaquer là d'ici peu, sur l'année à venir, ils vont devoir relever leur compteur, leur consommation de gaz, d'électricité, de bois, de fioul, et de suivre leur consommation et de voir comment ça fonctionne, comment ça évolue au fur et à mesure qu'ils mettent en place ces éco-gestes.
Et la DIL est partenaire avec le parc.
Et la DIL est le partenaire technique, on va dire, du parc sur cette action.
Et ça fait 4 ans aujourd'hui qu'on le lance, ce défi. Alors, il y a un objectif initial qui est à 8% d'économie, mais dans les faits, les familles économisent de l'ordre de 12 à 15% sur leur facture, juste avec des gestes et des comportements.
Elles font péter les scores, quoi.
Voilà, tout à fait. Après, je voulais juste dire que là, on a parlé rénovation bâtiment. Dans le défi, on ne parle pas de rénovation de bâtiment, on parle juste d'usage. Mais l'un n'est pas contradictoire avec l'autre,
bien sûr.
Et par l'opération là, qu'on va mener sur les logements sociaux, les copropriétés...
C'est le nouveau projet là, qui se prépare avec le parc.
Qui se prépare et qui va être lancé dès janvier. On va va donc diagnostiquer ces bâtiments. Donc on a d'ores et déjà 25 bâtiments d'identifiés, c'est environ 600 logements aujourd'hui. 400 logements sociaux et 200 logements dans des copropriétés privées. Et l'idée, à terme, c'est pouvoir peut-être accompagner ces copropriétés, les locataires des logements sociaux, aussi dans une démarche de ce type, défi familial énergie positive, mais surtout pour leur apprendre aussi à bien utiliser leurs bâtiments. Voilà. Parce qu'on le voit bien régulièrement, quand on vient isoler un bâtiment, on vient rajouter une grille de VMC, et puis derrière, les gens, la première chose qu'ils font, c'est mettre un sopalin dans la grille d'aération de la VMC.
Parce que Or, le froid s'en va.
Voilà, mais c'est quelque chose qui est important de garder. Donc voilà, on ne gère pas un bâtiment rénové comme on gère un bâtiment ancien. Et ça, c'est très important de coupler ces travaux énergétiques à aussi l'usage qu'on va en faire demain.
Coupler les solutions entre donc rénovation, information du public. Merci à tous et toutes. Voilà une belle conclusion pour cette émission. Prochain sujet, donc dans un mois, réalisé par nos confrères Radio Larzac. On parlera cette fois de la production d'énergie sur le territoire, notamment de la méthanisation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.
Merci. Merci.
Une autre vie s'invente ici.
Une autre vie s'invente ici.
L'équilibre énergétique en question.
Énergie renouvelable.
Bâtiment.
Transport.
Sobriété énergétique.
Économie circulaire.
On en parle dans cette émission coproduite par Radio Larzac, Radio Sainte-Afrique et le Parc naturel régional des Grands Causses.